Ce serait tout à fait déplacé et inutile de chercher à décrire l'homme d'un côté et l'œuvre de l'autre. Il est homme et œuvre à la fois. Tout aussi déplacé serait de rechercher dans son œuvre une perfection quelconque. La perfection est un concept et en tant que tel n'a pas la complétude d'une vie. Auguste Faure, vous le verrez dans ses bons hommes de bois, vous le verrez aussi dans ses bateaux, dans ses maisons, dans ses chars à bœufs, dans ses rosaces, dans ses monstres et ses épées. Mais en plus de tout cela, il existe et toute une part de lui sera à jamais invisible. Dans son œuvre, chaque détail vient prendre vie. Il n'y a pas recherche du réel, mais intégration au réel. Tel ce bras de poupée qu'il met à l'homme qui conduit un de ses bateaux, tel le morceau de faux col en celluloïde qui donne une apparence cornée à la gueule d'un de ses monstres, tel le caoutchouc qui figure les gencives. L'objet en lui-même n'existe plus, il n'y a plus d'objet isolé, il n'y a plus d'objet en soi. Tout objet devient partie organique d'un tout. L'ensemble lui-même perd rapidement sa valeur représentative commune. Il doit être appréhendé comme l'analogon total d'une vie, la vie de Faure. Auguste Faure n'est pas toujours content de ce qu'il fait. Il a une certaine attitude critique devant son œuvre. Il hoche la tête, mais il ne faudrait pas confondre ce hochement de tête avec la méthode paranoïaque critique. Faure est fou, bien fou. Et il y a un abîme entre le fou et le normal. Il ne recherche pas, il ne contemple pas. Il a une attitude morale, il a un jugement affectif vivant. Son attitude critique, c'est de hocher la tête, de vendre ou d'échanger son ouvrage. Et c'est tout, ou presque. Il édifie. Sa fonction est d'édifier. Il est fait comme cela, édifiant. Et c'est pour cela qu'il se sert de lui-même, de ses stéréotypies schizophréniques. Il a plusieurs caisses qui contiennent des motifs tout préparés, bordures, têtes d'animaux, ailes, feuilles, gargouilles, etc. Il construit, et sa construction se fait presque au hasard. On pourrait parler d'un hasard organique. Il amasse, il entasse, et tout prend vie. Et chaque objet, chaque détail devient une surprise. Telle cette tétine de biberon qui assume le rôle important de pommeau de vieux cuivre d'une épée. Tel ce tuyau de cafetière de couleur passée tirant sur le vert clair et le blanc métallisé qui vient se faire poignée d'une autre épée. Tel ce vieux cuir de sabot qui devient le sablier d'un bonhomme ou ce papillon cassé de bicyclette qui devient figure de proue d'un navire ou encore ce morceau de verre de couleur qui devient feu changeant d'une lanterne de bateau ou cette épingle à tête bleue qui devient l'œil vivant d'une poupée de bois, etc. Tout devient dans les mains les muscles de Faure. Il a découvert sans trop le savoir, sans trop de triomphe, la valeur plastique extraordinaire que peut prendre le monde des choses. Comment y arrive-t-il? Peut-être par la place qu'il assigne à chaque détail dans la construction de l'édifice. Mais aussi par un sentiment de participation avec les choses qui nous échappent, peut-être parce que nous ne sommes pas schizophrènes. Un fait est à remarquer, c'est que Faure excelle à rendre une harmonie de couleurs quand il assemble entre eux des objets coloriés. Par contre, quand il peint lui-même son ouvrage terminé, il le fait souvent d'une façon criarde, inharmonieuse, ce qui contraste énormément avec les délicatesses de teinte qu'il obtient par l'autre méthode de simple juxtaposition. Cela provient-il du fait qu'il peint un ensemble alors qu'il assemble des objets épars? Peut-être. L'ensemble n'existant pas pour lui en tant qu'ensemble et la couleur s'y posant alors d'une façon tout artificielle.
Nous avons déjà dit que, pour Faure, cet ensemble n'est pas une œuvre d'art. Faure, le plus souvent, met des vraies dents à ses monstres, des dents de bœuf, de mouton. Il met une langue qui, bien qu'étant en caoutchouc, est trop vraie pour être esthétique. Il recherche ces détails vivants, poussés par une espèce d'élan vers l'authenticité. Mais on ne fait pas du vrai, du vivant avec du mort. Il faut être fou pour y croire. Le vrai, c'est ce qui existe. On ne peut pas le construire. Ou bien, on obtient un autre vrai. Mais le mécanisme d'édification, de construction, fonctionne chez Faure, d'une façon presque continuelle. Sauf peut-être pendant les hivers trop rigoureux de Saint-Alban. Cependant, il arrive souvent que ce mécanisme fonctionne à vide. On a l'impression d'une machine qui fait du surplace. Cela se manifeste par une sorte d'industrialisation, de fabrication en série. C'est comme un défaut d'accrochage, comme si, dans une montre, les engrenages s'écartaient les uns des autres de temps en temps et continuaient à tourner pour leur propre compte. Il serait intéressant de chercher quelles sont les phases qui jalonnent l'évolution artistique de Faure. Nous n'avons pas assez de renseignements pour pouvoir le faire d'une façon précise. Il ne faut pas oublier que Faure est un fou et comme tel était voué au mépris et pratiquement à l'horreur sacrée de toute une société établie sur des normes archaïques. Feuilletez les premiers dossiers. Vous ne voyez presque rien, si ce n'est quelques renseignements recueillis au cours d'enquêtes qui avaient marqué ces différents internements. La classique formule « dangereux pour lui-même et pour son entourage » suffisait pour vouer à l'oubli un homme qui, bien que malade, reste toujours un homme dans le sens le plus profond du mot. Nous allons essayer de l'en sortir un peu. Auguste Faure est né le 27 avril 1887, de parents cultivateurs dans un village de Lozère. Il est le septième d'une famille de 9 enfants. Il est allé en classe, a appris à lire et à écrire. Mais très tôt, il a éprouvé un invincible désir de quitter sa famille et son pays et de voyager par chemin de fer. Nous pouvons reconstituer le mode d'entrée dans la maladie. Un écroulement lent du monde maternel qui s'accentue à l'époque pubertaire, sous-tendu par une évolution progressive d'un affaiblissement inéluctable de l'individu. La période pubertaire, avec ses dures épreuves d'affirmation de soi devant le monde, se révèle catastrophique. C'est l'âge du départ, l'âge des expériences gratuites, l'âge de la recherche du monde, de la recherche du trésor perdu, de l'ascension définitive qui vous libère de l'enfance. Mais Faure reste englué dans cet élan. Il essaie de progresser. Voyant que tout s'effrite, il va chercher ailleurs, toujours ailleurs, l'image intégrée du monde et de la mer. Mais la force lui manque. C'est une époque de fuite et d'appel, de vaines recherches. Il part en chemin de fer, il voyage sans billet, hors du réel, pour essayer de retrouver le réel. Mais son insuffisance éclate à chaque pas. Il s'empêtre, s'englue toujours davantage dans cette fuite toujours recommencée. Avant son internement à l'asile du Pé, en mai 1906, à l'âge de 19 ans, il avait déjà fait plusieurs fugues. Il était allé en chemin de fer et toujours sans billet, à Toulouse, à Clermont, à Nevers, etc. Il a essayé même de s'échapper de l'asile du Pé, mais fut rattrapé à la gare. Là encore, rejouer ce mécanisme de fuite et de recherche, l'asile prenant la place de la famille, de la mère. En septembre 1912, sa famille essaie de le reprendre, mais il fait encore d'autres fugues, recourant facilement à des actes de violence, menaces avec couteau, hache, quand on l'empêche de partir. En juin 1914, il fit dérailler un train. Ce délit provoque son internement à l'asile de Saint-Alban. Il révèle bien le caractère schizophrénique simple de Faure. Cette recherche naïve, cette fuite de la responsabilité, du contact avec la réalité vécue des autres hommes, cette perte de l'horizon née dans le temps vécu ainsi que de la médiateté, trouve ici son prototype que nous remarquerons dans toute sa vie, dans toute son œuvre. Un dimanche, je me trouvais sous un tunnel. Un train allait passer. Je mis 4 ou 5 cailloux sur les rails et je m'abritais dans une niche. Je voulais voir écraser les cailloux, mais je ne croyais pas que mon acte pût faire dérailler le train. Extrait de l'enquête de 1927. Faure est obligé, par son affaiblissement, de se débattre comme il peut dans un monde en catastrophe continuelle. Tant que son élan pubertaire reste actif, il essaie de continuer la recherche de l'impossible réalité dans le monde des paysages. De Saint-Alban, de 1914 à 1923, il s'évade 5 fois. Puis, le phénomène des voyages semble se convertir en une autre recherche, une recherche pour ainsi dire plus locale. Cette conversion était déjà en germe depuis longtemps. Une couche plus profonde de sa personnalité qui intégrait un autre système d'activité se trouve mise à jour, remplaçant le système en faillite des voyages et empruntant à celui-ci toute sa finalité, toute sa signification. Pour être plus concret, on peut dire que Faure, de voyageur, est devenu constructeur. Constructeur de bateaux, de dieux ailés, mais aussi constructeur de maisons. Construction dont il devient le maître tout-puissant, monde qu'il crée et qu'il dirige. Cette couche profonde, nous la voyons déjà se manifester à l'asile de paix. Il travaillait déjà de menus objets. En 1914, le médecin chargé de l'expertise le décrit comme s'étant présenté à lui la poitrine constellée de médailles de bois qu'il avait fabriquées dans sa cellule, à la prison de M. Interrogé sur ces médailles, Faure aurait alors répondu qu'elles lui avaient été données par la Compagnie des chemins de fer à cause du déraillement. Cette réponse, notons-le, est splendide. Elle révèle en quelques mots toute l'originalité de la débilité schizophrénique de Faure, cette atrophie de la valeur morale ordinaire, cette dyslogie qui confond la cause et les faits, cette apparence de n'importe-quisme et de fausse ironie, etc. D'autre part, en 1915, un certificat de situation note faiblesse intellectuelle. Malade très fier de lui-même, s'occupe souvent à dessiner et à sculpter des os de boucherie. À force de travailler, le fait avec un certain art primitif. C'est quelque peu sommaire, mais cependant précieux, dans le fait que cela nous indique deux orientations capitales de son œuvre, d'un côté le dessin et la peinture, d'un autre côté la sculpture à partir de matériaux bruts. Nous y reviendrons. Mais là encore, ce n'est qu'un soubassement de sa personnalité. Il songe encore à voyager. À ses chapitres.